Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour le MAG de l'IMO. On est en votre compagnie depuis 7h et à 8h, de 8 à 9, vous le savez, tous les vendredis, on a le plaisir, l'honneur d'accueillir un grand invité cette semaine. C'est Jérémy Bellec, le patron de Spinalcom, qu'on va passer sur le grill, côté pro, côté perso également, avec ma complice Fabienne Lissac. Comment ça va Fabienne?
Ça va Fabouche,
décidément.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On a un bel invité, des beaux yeux bleus. Il est très intelligent puisqu'il nous parle du bâtiment intelligent. Je pense, Fabrice, qu'on va passer un bon moment.
Je l'espère.
Jérémy, bienvenue. Du coup, patron de Spinalcom, on va tout savoir effectivement sur votre société, mais également votre parcours et puis peut-être ce qu'on va pouvoir faire, notamment dans le BIM. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien, on traduit en tous les acronymes ici parce que tout le monde a les siens, bien évidemment. Et bien sûr, on a besoin de votre décryptage. En quelques mots, présentez-nous Spinalcom.
Alors j'ai essayé de vous présenter Spinalcom justement en décryptant les autres acronymes que je vais rajouter parce que moi je fais du bâtiment digital. Donc en gros, le métier c'est comment est-ce qu'on va produire des outils digitaux pour faire en sorte que ce bâtiment qui est un bel asset physique, alors on travaille plutôt dans le bâtiment tertiaire ou industriel aujourd'hui, mais qui produit énormément de données, comment est-ce qu'on va mieux les exploiter ces données pour ensuite mieux exploiter ou mieux gérer le bâtiment. Donc concrètement, comment j'exploite mieux les données énergétiques pour mieux gérer la partie énergétique? Comment j'exploite mieux les données de maintenance pour mieux gérer la maintenance?
Tout de suite, ça parle un petit peu plus, parce qu'on se dit en ce moment, l'énergie, faut l'économiser ou faut pas trop la gaspiller. C'est une dépense, du coup, vous pouvez agir là-dessus.
Oui, exactement. Et alors, c'est une dépense, mais c'est pas qu'une dépense. Et au fait, il y a tout un changement qui s'opère maintenant, qui est quand même assez extraordinaire sur, on va dire, au moins deux grandes parties, qui sont cette révolution écologique, on va dire, sur lequel, là, on est sur des formidables assets bâtimentaires, bâtis, des objets physiques, finalement. Et jusqu'à hier, on va dire, on vivait dans un monde, entre guillemets, sans fin, sur lequel la partie consommation de ressources se traduisait juste par le côté financier.
C'est vrai.
Aujourd'hui, cette partie consommation de ressources, elle se traduit par autre chose. On sent qu'il va falloir qu'on les monitère mieux, qu'on les gère mieux, qu'on les structure mieux, etc. Et donc, comment on fait pour déjà comprendre ce qu'on utilise comme ressources, comprendre comment fonctionne le bâtiment, comprendre si on gère bien ou non ces parties-là, et que ce soit pour l'énergie, pour la maintenance, pour les usages, etc. Et donc, tout l'objectif de notre entreprise, c'est justement de fournir ces outils qui vont bien gérer les données pour aider nos clients à mieux comprendre et donc à mieux gérer.
Alors, vous n'êtes pas tout seul à vous focaliser sur cette démarche, puisque on a reçu cette semaine le livre blanc de la SBA, Smart Buildings Alliance, qui parle de la gouvernance des données du bâtiment. Et on se rend compte dans ce livre blanc auquel vous avez participé, extrêmement bien fait, qu'il y a une dynamique d'innovation qui existe depuis longtemps. D'abord, dans la construction, il y a toujours ce besoin d'évoluer. Il est écrit dans ce rapport que, d'abord, limiter à l'utilisation du bois de matériaux exclusivement sollicités à la compression, de la pierre ou la brique. La construction avait connu un premier tournant avec l'invention du ciment. Avec l'ascenseur, on est passé à des immeubles de grande hauteur. Il y a des grandes étapes. Est-ce que l'arrivée du digital que vous commencez à esquisser sur notre plateau, pour vous, c'est une étape de telle nature qui fait bouger la construction ?
C'est une véritable révolution industrielle qui, de toute façon, s'applique absolument tous les secteurs. Et nous, dans notre secteur, et là, on va commencer à rentrer dans les vrais acronymes, le BIS, le BOS, le BIM, le jumeau numérique, etc., qu'on va définir, mais c'est de toute façon une révolution industrielle, et elle s'applique parce que, globalement, la révolution digitale, ça vise à, en gros, mieux gérer la manière dont on va partager les informations. Donc, en gros, envoyer la bonne information au bon moment à la bonne personne pour optimiser, améliorer, etc. Et ça se traduit évidemment dans le monde de la construction, parce qu'on est sur des gros projets. Et ça se traduit aussi sur le monde de l'exploitation de ces bâtiments, sur lequel nous, on est plus... et le livre blanc parle plus de ça, c'est comment est-ce qu'on va justement gérer cette exploitation des bâtiments, sur lequel on est dans des domaines qui sont avec un nombre d'acteurs qui est assez impressionnant, enfin, qui est assez énorme, mais simplement parce qu'on gère, quand on gère une tour à la Défense qui sur lequel il y a 10 000 personnes qui viennent travailler par jour, sur lequel il y a un investisseur, un asset manager, un property manager, des facility managers, il y a des locataires, des directions de l'environnement de travail, des DSI, etc. Bah, comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces personnes-là aient la bonne information au bon moment pour bien faire leur boulot et pour faire en sorte que la vie soit plus agréable et le travail soit plus agréable pour tout le monde.
Mais dites-moi, vous êtes quand même une forte tête bien remplie. Hein. Vous avez fait l'école normale supérieure, un ingénieur du qualité, vous avez un PhD. Vous allez nous parler de vos relations avec Polytechnique. On a tous envie d'être dans un bâtiment intelligent. On a tous envie qu'il y ait des gens intelligents dans les bâtiments intelligents. Mais est-ce qu'il faut avoir fait Polytechnique pour optimiser le bâtiment ?
Alors non, je pense pas. Il se trouve que c'est mon parcours, mais je me suis passionné par ça. Voilà. Non, alors je pense pas. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui est qu'on comprend peut-être pas qu'un bâtiment... Alors moi, avant, j'étais dans l'aéronautique. Tout le monde se dit qu'un avion, c'est complexe, ou une fusée, c'est complexe. Et un bâtiment, on a une vision qui est peut-être un peu plus...
Simpliste.
Alors qu'au fait, si vous allez voir n'importe quel bâtiment tertiaire moderne, il y a près de, enfin, vous prenez une tour à la Défense de, je sais pas, 20 000, 40 000 mètres carrés. On a des beaux assets quand même. À l'intérieur, vous avez près de 500 ou 1000 ordinateurs qui vont gérer le bâtiment. En gros, vous avez des automates de régulation thermique. Vous avez des systèmes de contrôle d'accès. Vous avez des systèmes de sécurité incendie. Au fait, le bâtiment, cette révolution digitale, elle a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé il y a déjà pas mal d'années. Ça fait déjà 30, 40 ans que...
Depuis qu'il y a l'informatique, en fait.
Non, depuis qu'il y a de l'informatique, ouais. Et depuis qu'on veut gérer mieux sa consommation, depuis qu'on veut gérer mieux le confort, depuis que des gestionnaires de la maintenance mettent des outils qu'on appelle des GMAO, des outils de gestion de facilitation pour la maintenance, depuis qu'on veut réserver des salles de réunion avec des outils de réservation de salles de réunion digitaux, depuis... En fait, on se rend compte que la digitalisation du bâtiment, elle a commencé depuis que la digitalisation a commencé, simplement parce que c'est notre lieu de vie, notre lieu de travail, et donc c'est les choses qu'on a...
Mais on a pourtant l'impression d'une accélération, évidemment, on est dans un monde de plus en plus numérique, et c'est vrai que tout ce qui est justement building, modeling, donc le BIM, etc., on n'entendait pas encore parler il y a quelques années, en tout cas c'était les prémices. Aujourd'hui, voilà, on parle de jumeaux numériques, c'est-à-dire créer, bah, comme dans l'aéronautique, c'est-à-dire plutôt que de créer le bâtiment ou le recréer en virtuel, de manière à analyser peut-être les flux, les consommations, le pilotage, ça c'est quand même un métier. Alors est-ce que c'est nouveau? Peut-être pas, mais on a l'impression que ça s'accélère.
Alors ça s'accélère. Moi j'étais pas dans le bâtiment jusqu'en 2015, donc j'y suis rentré en 2015.
Ah vous savez, vous êtes un petit nouveau.
Alors c'est vrai qu'à l'échelle de temps du bâtiment, je suis un petit nouveau.
Mais il va très vite.
J'étais dans le domaine de l'aéronautique sur lequel finalement cette modélisation, ça fait déjà 20 ans qu'on dessine plus un avion sur des plans papier ou en 2D. Ouais. Voilà, ou une voiture, on la conceptualise plus en 2D non plus. On a des outils 3D pour le faire, etc. Donc finalement, la démarche, quand je suis arrivé dans le monde du bâtiment, c'était justement en voyant que tout ce qu'on faisait dans le monde de l'aéronautique, il y avait ce BIM qui arrivait dans le monde du bâtiment, des systèmes de gestion technique des bâtiments avec des sociétés comme Distech Control, Schneider Electric, Siemens, etc. Ça existe déjà depuis longtemps, donc des données sur le bâtiment, on en a plein. Je me suis dit, bah, tiens, tout ce qu'on fait dans le monde de l'aéronautique pour gérer un avion, on peut le faire techniquement parlant. Maintenant, ça y est, c'est possible aussi dans le monde du bâtiment. Et donc, il y a une accélération qui est due non seulement au fait que les technologies sont là, elles sont présentes. Mmh. Pourquoi pas les utiliser? Qu'une fois qu'on y est passé, au fait, on a du mal à revenir en arrière parce que concrètement, entre modéliser son bâtiment en 3D pour pouvoir le concevoir, prévoir ce qu'on aimerait faire avec, etc., c'est beaucoup plus... finalement, on a une approche beaucoup plus directe avec ce qu'on va produire. C'est beaucoup plus simple à comprendre aussi pour des gens qui savent pas lire des plans ou des choses comme ça. Et on revient pas en arrière. Et puis après, il y a une accélération. Je pense que ça peut paraître bizarre, mais le Covid aussi a fortement changé la donne. Ne serait-ce que le Covid et puis cette révolution écologique change fortement la donne. Et puis on fait que suivre finalement les tendances. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, comment je fais pour mieux gérer? J'ai un passage massif au télétravail, c'est-à-dire que mes bâtiments sont moins utilisés dans le tertiaire, ou qu'il y a une révolution de l'usage des bâtiments tertiaires, comment est-ce que j'arrive à comprendre comment mon bâtiment est utilisé? Mais en fait, je ne sais pas.
La généralisation du télétravail, pour vous, c'est une aubaine? C'est-à-dire, d'un seul coup, tous les managers sont dit, oh là là, il faut que je pilote beaucoup plus à distance? Il y a un boom, là?
Alors, il y a un boom, de fait. vous dire que c'est une aubaine, je ne l'ai pas choisi, je l'ai vécu, je l'ai subi, mais finalement... Force est de constater qu'il y a deux choses. On comprend qu'au fait, globalement, on se dit que le passage au télétravail, les bâtiments tertiaires, de fait, vont sûrement être utilisés de manière très différente. Mm-hmm. Et on se dit, bon, mais comment ils étaient utilisés aujourd'hui? Est-ce que je sais vraiment quel est le taux d'usage de mon bâtiment? Voilà. Il est utilisé à 30, 20, 50%, 60%. Est-ce que je sais ce qu'il consomme? Est-ce que sa consommation énergétique est reliée à son usage? Est-ce qu'en gros, il consomme beaucoup quand il y a beaucoup de personnes et peu quand il y a peu de personnes ou pas? Et en fait, toutes ces choses-là, elles sont très complexes à comprendre. Il y a peu de solutions qui le font parce qu'en fait, je l'ai dit, la digitalisation du monde du bâtiment, elle n'a pas commencé avec nous, elle a commencé il y a longtemps. On mettait un système de... Alors, j'ai utilisé tous les acronymes maintenant. GTB, gestion technique des bâtiments.
Oui.
Donc, c'est les systèmes qui gèrent votre confort. Puis, vous avez d'autres systèmes de GMAO, de gestion de la maintenance. C'est ceux qui utilisent le facility manager, donc le mainteneur, pour aller faciliter ou aider sa compréhension, sa maintenance. Puis, vous avez des IWMS, des Integrated Workplace Management System. En gros, des systèmes qui vont essayer de gérer un peu la manière dont on va structurer les espaces. Et puis vous avez cette maquette BIM, cette modélisation 3D. Et vous avez plein de systèmes qui gèrent le bâtiment, mmh. avec plein d'équipes qui travaillent toutes les unes à côté des autres, mais personne n'a une vision globale de l'ensemble.
Mais là, vous savez, vous êtes dans une EGFC, une émission gérée par Fabrice Coustet. Non, je plaisante puisqu'on est dans les acronymes et on ne veut pas perdre quand même. Tout le monde n'est pas ingénieur. Je plaisante parce que vous vulgarisez. Une petite question. Effectivement, dans le transport, on a vu des opérateurs dans l'aviation faire du surbooking. Donc, ça fait longtemps que les taux d'occupation dans les hôtels, on nous parle de ça. Vous avez cité quelques pourcentages. C'est quoi le bon niveau moyen de taux d'usage d'un bâtiment? À partir de quel moment ça ne sert plus à rien d'avoir des bureaux?
Alors, je ne pourrais pas vous dire quel est le taux d'usage moyen du bon usage. Par contre, je peux vous dire chez des clients, chez des partenaires, etc., quel est le taux d'usage effectif. Alors, je ne sais pas si je vais citer des noms de partenaires, mais globalement, on a un client qui a une grande tour à la Défense, sur lequel avant le Covid, ils estimaient que c'était utilisé, leur bureau était utilisé à 60%. Et après le Covid, c'est utilisé à 30%.
Ça fait une différence.
Voilà. Et la moyenne d'usage des grands bâtiments tertiaires...
Excusez-moi, 60% c'était avant?
C'était avant le Covid. Ouais.
Et déjà, on savait qu'on avait une...
60% simplement, c'est parce que je prends des bureaux pour 10 000 personnes, mais parmi ces personnes-là, j'ai des commerciaux qui ne sont jamais sur site, mais pourtant ils ont leur bureau, ils y sont qu'une fois par semaine, parce que sinon ils sont sur la route, parce que j'ai des gens qui sont en arrêt, parce que etc. etc. Et donc au fait, en fonction des profils des personnes, finalement, voilà, moi je prévois, j'ai une entreprise qui fait tant de personnes, je prévois des bureaux pour tant de personnes, mais toujours.
Mais c'est rare d'avoir 100% des collaborateurs présents en même temps. Il y a une petite boutade, c'est le plus grand bureau en général. C'est celui du patron, et il n'est jamais là.
Pas mal.
Et là, du coup, on est passé donc 60 à 30%.
On était, alors, dans ce cadre-là, parce que passage massif au télétravail, après, on va voir comment ça dure, mais globalement, on a quand même des clients qui sont des foncières, des asset managers, des investisseurs, qui estiment potentiellement, dans les bâtiments tertiaires, qu'il y aura peut-être une évolution et peut-être que leurs clients auront besoin de 20 à 30% d'espace en moins. Voilà. Mais en fait, on suit la tendance, le passage au coworking, etc. Finalement, ça avait déjà identifié cette tendance.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Alors, ça a plein d'impact. J'ai 60% de mon bâtiment qui est occupé, mais je chauffe ou je le refroidis à 100%. J'ai potentiellement 40% de marge, si je le gère plus intelligemment, sur ma gestion énergétique.
Ou si on roule, par exemple, sur un même plateau, on peut se dire, plutôt que d'avoir trois niveaux, on en fait deux. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de restructurer leur bureau dans ce sens.
Exactement. Comment est-ce qu'on peut densifier? Comment est-ce qu'on peut mieux gérer? Mais au fait, tout ça, sur le principe, finalement, ça paraît simple. Et puis quand vous le faites, il faut aussi faire attention. Je réduis mes espaces, mais attention, si j'en ai pas assez... c'est entre guillemets mon entreprise que je mets à risque parce que globalement mes salariés vont pas avoir un niveau de confort ou de qualité de travail, qualité de vie au travail qui va être suffisant. Et donc comment je fais pour savoir juste comment je gère? Est-ce que je peux essayer d'optimiser un petit peu? Et pour tout ça, il vous faut de l'information, il n'y a pas le choix. Il faut une information de qui vient, quels espaces sont occupés, est-ce que les espaces sont occupés confortable ou un niveau de service suffisant, etc. En fait, et toutes ces informations, elles viennent d'où? Soit de personnes qui maîtrisent leur environnement de travail, qui sont là tous les jours, qui structurent, etc. Mais on a une tendance à baisser un petit peu ce type de ressources humaines-là. Donc, il n'y a plus personne qui a une vision globale d'experts qui ont une vision vraiment d'ensemble de tout ce qui se passe dans leur bâtiment ou qui restent suffisamment longtemps pour... pour propager, on va dire, cette connaissance.
Et justement, quand vous parliez de réaménager les flux, voilà, se dire, par exemple, on va peut-être modifier son plateau, on va peut-être prendre en compte cette donnée, on peut le numériser aujourd'hui, c'est-à-dire vous pouvez, grâce à vos simulateurs, on va dire ça comme ça, on va vulgariser, on peut imaginer, tiens, on a 100 personnes dans l'entreprise, on sait qu'il y en a 60 qui viennent à peu près tous les jours, on peut réorganiser ces flux numériquement.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, ma société, on ne fait pas de la captation de données. Ce n'est pas nous qui créons les données, qui mettons les capteurs. En fait, on se rend compte que, oui, ces données existent déjà potentiellement. Alors, je ne parle pas de tous les bâtiments, mais dans les bâtiments tertiaires,
modernes,
bureaux modernes, ouais, globalement,
on les a.
En fait, vous avez des tonnes de capteurs. Potentiellement, un bâtiment de 20 000 m² à La Défense produit déjà 6 millions de données par jour. Avant que j'arrive. Simplement parce qu'on mesure la température, on mesure l'occupation parce qu'on a un capteur d'occupation qui fait que s'il y a quelqu'un, j'allume la lumière, s'il y a personne, j'éteins la lumière. Donc, on a un outil pour mesurer l'occupation des espaces, potentiellement, parce qu'on a des systèmes de contrôle d'accès, donc on sait compter combien de personnes, parce qu'on a des systèmes de sécurité incendie, parce qu'on a des systèmes de réservation de salles de réunion, parce qu'au fait, on a déjà énormément de données. Mais finalement, elles sont très peu utilisées. Elles sont très peu utilisées ou elles ne sont pas utilisées pour vraiment comprendre, je vous l'ai dit, de manière un peu transverse et globale, comment fonctionne.
Donc vous êtes un peu un spin doctor pour bien utiliser ce corps qu'est le bâtiment avec toutes ces données, quoi.
Ah bah, complètement. Et il y a même un nom, Spinalcom, globalement d'où ça vient. Spinal cord en anglais, c'est la moelle épinière. En gros, nous on fait des systèmes intelligents. Dans un système, vous avez plein de capteurs, vous avez vos sens, vous avez votre vue, votre odorat, votre toucher, tout ça. Ça vous permet de... Voilà, mais est-ce que parce que vous avez plein de capteurs, vous êtes intelligent? Non, il faut autre chose. Il vous faut de la mémoire et il vous faut de l'analyse. Donc vous avez votre cerveau, qui sont des organes de mémoire et d'analyse. Donc vous avez plein de capteurs, de la mémoire et d'analyse. Mais est-ce que ça vous suffit? Ben non, il faut que tout ça marche ensemble maintenant. Et en fait, tout ça dans le corps humain, ça marche ensemble parce que vous avez un système nerveux qui transmet de l'information, la bonne information au bon moment, au bon organe, si vous préférez. Et en fait, ce système d'information, il est composé de trois choses, vos terminaisons nerveuses, vos réseaux de nerfs et votre centre nerveux, qui est la moelle épinière. Spinal cord, en anglais, c'est la moelle épinière. Donc nous, on est le centre du système nerveux qui a vocation à récupérer toutes ces informations partagées un peu partout dans tous ces systèmes-là, à venir les récupérer, à les structurer, à les rendre compréhensibles, pour ensuite les fournir à des gens qui vont vraiment agir maintenant sur le bâtiment.
Vous avez oublié une chose, Jérémy Bellec. Pour être bien, il faut des amis. Pas vrai, Fabrice ?
Tout à fait. Et alors justement, c'est le principe de cette émission. On est allé voir dans votre carnet d'adresses. Et Fabienne, justement, vous avez retrouvé l'ami de notre invité, Jérémy Bellec. C'est Florian Roger qu'on va écouter tout de suite.
Florian Roger, bonjour. Vous êtes un ami de longue date de Jérémy Bellec. Ça vient d'où, votre amitié ?
Bah, ça vient des bancs d'école, de la prépa, des moments où on a un petit peu de mal à comprendre les maths, la physique, et où ça tisse des liens d'amitié assez forts.
C'est vrai que la classe préparatoire, c'est un moment de concentration intense. Il relève le défi de ce type d'épreuve. Comment a-t-il traversé la prépa, Jérémy Bellec ?
Alors, il était atypique. Et quelle que soit l'épreuve à surmonter, il la voyait non pas comme une falaise, mais comme un petit escalier à gravir pas à pas. Et avec ténacité, persévérance, et ben, il a toujours monté son escalier, que ce soit pour les épreuves de prépa des grandes écoles, ou après, ben, pour son domaine professionnel, où il a cru à son projet. Et il a développé de manière visionnaire ce que j'appelle un vaisseau amiral, parce qu'il est très, très lourd à développer quand en plus. Voilà.
Quand on vous écoute, quand il y a un cap, rien ne peut le détourner, c'est ça qu'il faut comprendre ?
Alors, pas rien ne peut le détourner, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence d'écouter, mais il va poursuivre son projet, il peut le faire évoluer dans le temps. Et c'est sa vraie histoire, hein. C'est-à-dire que quand cette idée a germé dans sa tête il y a 20 ans, elle n'était pas forcément pour les bâtiments intelligents d'aujourd'hui, mais il a su la faire évoluer aux besoins de la société et des entreprises.
Alors vous faites d'autres choses, à part travailler tous les deux, quand vous voyez, vous pouvez parler de quoi par exemple ?
Alors, tout bon père de famille, on parle de nos enfants, de l'éducation, on a l'art de se remettre en question, on a l'art de faire de la voile ensemble. Jérémy était moniteur de voile et on partage des bons moments sur les bateaux où il m'enseigne, il me donne des conseils, il m'explique.
C'est sur des zones particulières, la Bretagne, l'Ouest, vous avez des caps de prédilection ?
Alors très honnêtement, on va au plus simple et quand les agendas sont serrés, ben, on va au plus près, on va à Deauville.
Donc c'est un ami sur lequel vous pouvez compter, fidélité, loyauté, qu'est-ce qui revient comme adjectif quand vous pensez à lui ?
Alors fidélité, tolérance, il peut entendre, écouter et donner un conseil ou prendre du recul. C'est aussi grâce à lui que l'amitié dure dans le temps, c'est quelqu'un de fiable. Hein.
Donc là, il est sur le plateau, il est en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Jérém, ce vaisseau amiral, tu l'as pensé, tu l'as développé, et ben maintenant fais-le décoller, mais plus loin que les étoiles. Hein. Allez, gros bisous.
Merci Florian Roger, à bientôt. Alors c'est bon, vous avez une régate bientôt prévue avec votre ami Jérémy Bellec ?
On va s'y remettre, on a arrêté un petit peu pendant le Covid là, mais on va absolument s'y remettre parce que ça fait partie des bons moments.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la voile ? Parlez-nous de votre passion un petit peu là, c'est ce côté face à l'immensité, la puissance de la nature, c'est d'être à bord, de gouverner tout ça ?
Alors, il y a une phrase qui revient tout le temps. Un jour, je me suis retrouvé, on avait fait de la voile, donc en Bretagne, on est retrouvé sur l'île de Watt. On était dans un petit bar avec les gens avec qui je faisais de la voile. Et il y avait une petite phrase qui disait « La navigation à la voile, c'est le moyen le plus lent, le plus humide et le plus inconfortable pour aller dans un endroit où, de toute façon, on n'a rien à faire. »
Vous êtes masochiste, alors, ou pas ?
Mais au fait, on a lu cette phrase-là, on était tous là avec nos cirés parce qu'il faisait froid, etc. Et pourtant, on était objectivement super heureux d'être là et d'y être arrivé par ce moyen qui était le plus lent, le plus humide et le plus inconfortable. Donc, je dis, je ne sais pas réellement pourquoi je fais de la voile, mais concrètement, c'est quelque chose qui procure un plaisir énorme. Voilà.
Et vous avez des formes particulières entre les régates, les transats. J'ai vu cette semaine l'ancien patron de Fontaine Pajot, hein, il faisait des transats Paris-Nouvelle-Orléans. Il y a des distances, des courses que vous suivez particulièrement là ?
J'aime bien un petit peu tout. Moi, je faisais plus de la régate, mais sur de ce qu'on appelle de l'habitable. Donc, en gros, et puis même de l'habitable, donc plutôt la croisière, des longues traversées, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, avec mes filles, maintenant, je les mets à la voile et donc on fait plutôt du dériveur sur des lacs. Le but, c'est de faire une activité ensemble et en plus, effectivement, dans lequel on n'est pas forcément en maîtrise de tout. Et puis, il y a un côté très, très contact direct avec la nature aussi qui est top.
Et on vous imagine comme papa, puisque même votre ami vous en parle de vos trois enfants. C'est important apparemment dans votre vie. Alors, est-ce qu'en tant qu'ingénieur, vous vous dites, oh là là, vite les enfants, il faut apprendre le codage. Voilà, vous êtes à leur transmettre ce savoir-faire, cet amour de la data.
Alors, je pense que je le transmets sans le vouloir, parce que comme j'aime beaucoup mon métier, que je suis assez passionné, j'en parle beaucoup. Maintenant, moi, par exemple, je suis pas très foot, ou voilà, il se trouve que ma première fille, c'est sa passion, elle a toujours voulu faire ça, donc... Non, je pense pas que je le fasse, je pense que mes enfants, elles sont très très libres, très libres, et puis, elles voient quand même que leurs deux parents travaillent énormément, donc il y a un exemple qui est donné, mais non, je pense pas que je sois particulièrement à les pousser là-dessus.
Donc justement, il y a des parents qui se plaignent, oh là là, mon fils, il est constamment sur son téléphone. Vous, qui êtes le roi de la data, vous dites, oh bah c'est bien, ils sont sur leurs écrans à 4 ans. Qu'est-ce que ça
pas
donne
du tout.
Quel est votre regard sur les générations ? Bon, c'est vrai que vous, on l'a dit, ingénieur notamment du numérique, vous avez vite adopté ces nouvelles technologies, mais il y avait un gap de génération, les plus jeunes. Comment vous les voyez prendre, en France notamment, ces nouvelles technologies avec beaucoup d'écrans et beaucoup de données ?
Alors, je dirais que moi, je ne suis pas né avec. Enfin, on n'est pas né avec parce que le premier Apple II, il est arrivé juste après ma naissance. Voilà, on a vécu progressivement. Ils ont un petit peu tout. Alors après, comme tous les parents, c'est-à-dire je ne supporte pas que mes enfants soient devant leurs écrans tout le temps. C'est pas du tout l'objectif. Et après, je pense que même ces technologies, il y a des moments où elles ont vraiment énormément de sens et d'autres où elles n'en ont pas forcément. J'ai pas une maison complètement équipée avec énormément de choses. Au contraire, parce que
elle n'est pas connectée, elle n'est pas domotique, elle
est gérable complètement à échelle humaine. Je préfère avoir un bon feu de cheminée. Et puis, j'habite dans un coin de campagne proche de Paris, en fait, quasiment, donc près de Versailles. Donc c'est pas l'endroit où j'ai envie de mettre plein de technologies. Par contre, il y en a d'autres. Les bâtiments, justement,
qu'on gère,
c'est smart building. Non, pas du tout.
Non, je plaisante.
Non, alors, s'ils le veulent. Mais tous ces smart buildings, tous ces bâtiments qui sont plus gérables à échelle humaine, au fait, parce que ça devient trop gros, ça devient un asset industriel tellement complexe. Là, effectivement, il faut essayer de faire mieux, il faut essayer de faire plus, il faut essayer de comprendre, et ça devient vraiment très pertinent à cet endroit-là. Donc, je ne dirais pas qu'il faut mettre de la technologie absolument partout. Au contraire, il y a même des endroits, le low-tech, c'est ultra pertinent. Et puis, il y a des endroits où, pour mieux gérer, il faut mettre plus d'intelligence. L'intelligence humaine, entre guillemets, n'est pas suffisante parce que c'est trop complexe. Et là, il faut se faire accompagner. Donc là, c'est super pertinent.
Si on écoute bien votre ami Florian Roger, il y a cette idée, cette dimension chez vous progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tout le monde jure par le big data, mais à l'époque, quand vous êtes lancé là, dans les jumeaux numériques, apparemment, vous étiez un petit peu tout seul. Donc vous avez ce côté persévérant quand vous êtes visionnaire. Racontez-nous comment vous êtes venu à ça quand même.
Alors comment je suis venu à ça? J'ai eu la chance justement, vous l'avez dit, je fais l'école normale supérieure, j'ai fait un doctorat et dans ce doctorat on parlait de jumeaux numériques, enfin pas de jumeaux numériques, le terme n'existait pas complètement encore, mais de modélisation, etc. Donc c'est vraiment, j'ai compris ou j'ai appris des choses à ce moment-là et j'ai eu la chance de faire ces études-là et d'avoir, d'avoir des profs exceptionnels aussi et d'avoir vraiment ce... Enfin, d'apprendre ces choses que, a priori, qui sont pas forcément des choses communes. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a appris ça, qu'on a vu ça dans un domaine, on se dit, mais pourquoi on le réplique pas ailleurs? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire, etc. Et donc, toute cette thématique-là, moi, c'est une thématique qui a commencé à me passionner parce que quand on rentre dans le détail, c'est passionnant. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut s'en servir très concrètement? Voilà. Je préférais, moi, en sortir de ce doctorat, plutôt monter une entreprise en disant, je veux appliquer ce qu'on a fait. Je veux mettre sur le marché, je veux faire en sorte que tout ce qu'on développe là, ça reste pas simplement de la recherche, même si c'est très important, mais ça arrive vraiment dans le domaine public. Et c'est pas évident non plus cette valorisation de la recherche, donc ça a mis quelques années sur lesquelles c'était entre la recherche et puis le développement d'un véritable produit, et puis ensuite on trouve un cadre, on trouve un marché, on s'adapte, on observe, etc. Et là, dans le monde du bâtiment, j'y suis arrivé vraiment complètement par hasard, parce que l'ami d'un ami dit « Tiens, il y a cette fameuse maquette BIM, donc ce Building Information Model qui arrive. On a plein de demandes, on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que tu pourrais essayer de faire quelque chose avec ça ?» Et là, pour le coup, là, je me suis retrouvé complètement dans mon domaine de...
Vous nous avez dit que vous êtes passé par l'aéronautique, oui. C'est-à-dire que vous avez vu des passerelles ou des choses, vous dire « Mais en fait, je fais ça sur l'aéronautique, ça pourrait être très bien fait sur les bâtiments. » Et en plus, il y a quand même, j'imagine, plus de bâtiments dans le monde que d'avions pour l'instant.
Alors oui, voilà, moi, je travaillais avant pour Airbus et Safran. Mais dans la partie innovation, très R&D, des nouveaux modèles d'avions, il y en a à tous les 15 ans, 20 ans et encore.
Donc vous étiez en train de travailler sur les nouveaux modèles d'avions?
Alors
précisément,
pas trop, parce qu'on n'a pas des nouveaux modèles d'avions. on faisait du jumeau numérique pour les avions. En gros, pour construire un avion, vous devez en casser plusieurs, en tester plusieurs dans des laboratoires.
Ça doit être marrant, des essais. Ça.
C'est marrant, mais ça coûte excessivement cher aussi. Et donc, tout un objectif, c'était comment on transforme des essais par de la simulation, de la modélisation, ou comment, quand on fait un essai, on va aller casser des pales, etc. Comment on fait pour mieux l'observer, mieux le comprendre, etc. Et bah là, globalement, on parlait de jumeaux numériques, parce qu'il fallait bien modéliser, il fallait bien comprendre, fallait bien... Voilà. Et en fait, toutes les problématiques que j'ai trouvées là, finalement, un avion, c'est un immeuble qui vole. Hein, c'est pas... Voilà, il y a des problématiques aéronautiques, mais il y a toutes les problématiques qu'on va retrouver simplement, y compris dans des bâtiments. Et donc, mon principal client, qui était Airbus Innovation à l'époque, a été... a disparu parce qu'ils ont redispatché ça dans toutes les entités du groupe Airbus. Ben finalement, moi, j'ai perdu tous mes clients en à peu près 6 mois. Voilà. dans l'aéronautique, on ne peut pas avoir énormément de clients dans le monde, finalement.
Enfin, ben oui, bien sûr.
Pas des gros clients, en tout cas, des gros donneurs d'ordre. En Europe, il n'y en a pas 50 non plus.
Ouais.
Donc là, finalement, on s'est posé la question, enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais?
C'était trop compliqué de créer un bureau d'études dans ce domaine?
C'était plus...
Moi, je n'aurais pas créé un... Bon voilà, si vous montez une boîte juste après, il y a aussi cette volonté, je voudrais y venir, d'entrepreneuriat, de lancer sa boîte. C'est quand même très différent, pour ceux qui nous écoutent, d'être au chaud, j'allais dire, chez Airbus, dans une énorme boîte.
Non, j'étais pas chez Airbus.
Ah, vous n'étiez pas chez Airbus?
Non, j'avais déjà ma boîte. D'accord. En fait, c'est Spinalcom, c'est la suite logique d'une autre société.
Okay. Donc ça peut encore se transformer, cette histoire.
Ah, ça s'est transformé. En fait, d'accord, c'est la même entreprise qu'on a pivoté.
Vous étiez donc un sous-traitant, entre guillemets?
J'étais un sous-traitant.
Technique, technologique.
Sous-traitant technologique, plutôt R&D.
D'accord.
Plutôt R&D, donc recherche et développement, pour les acronymes, plutôt R&D. Donc
c'est
la même
entreprise. Quand même dépendante d'un seul client.
D'un seul ou deux clients, parce que c'est le monde de l'aéronautique qui veut ça. Et donc ensuite, là, il faut pivoter.
Ouais. Vous gardez les mêmes équipes, du coup?
Alors non, je rachète les parts de mes anciens associés, je me retrouve tout seul et je me réassocie avec d'autres associés, donc Sébastien Coulon, qui est mon associé aujourd'hui.
Ouais.
Principal, avec qui on a monté concrètement Spinalcom, et on allait plus loin. Et donc, on va dans le monde du bâtiment, et là je découvre quelque chose que je connaissais pas, à savoir que contrairement à l'aéronautique, des nouveaux bâtiments, il y en a à peu près tous les jours. Donc si vous perdez un appel d'offres, il y en a le lendemain. Voilà, que c'est un marché qui est très humain, très très. Enfin, il y a l'immobilier, il y a le bâtiment qui est excessivement complexe avec des tonnes d'acteurs, avec voilà.
Et puis surtout, un marché extrêmement profond. Hein. On le voit quand on va sur des grands salons, MIPIM ou etc. Il y a vraiment pléthore de métiers. C'est une galaxie en fait.
C'est une galaxie et c'est d'une richesse assez incroyable. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'imaginais avant. Mm-hmm. Voilà, j'avais pas cette image du bâtiment. Et c'est un milieu dans lequel finalement il y a une appétence pour l'innovation, une appétence pour. Enfin, chaque bâtiment étant un nouveau prototype. Il y a cette envie de faire quelque chose de nouveau à chaque fois, en fait. Et donc, finalement, j'ai trouvé
un nouveau terrain de jeu.
Un nouveau terrain de jeu. Et un terrain de jeu qui est tellement vaste, sur lequel je pense que j'ai mis 3 ou 4 ans avant d'essayer de le cerner, de le comprendre et de faire en sorte que tous nos outils puissent vraiment s'adapter à ce métier-là.
Petite question, on parle beaucoup des nouveaux bâtiments. Il y a quand même un parc ancien, entre guillemets. Est-ce que là aussi, quand même, vos outils numériques, vos outils d'innovation peuvent faire quelque chose? On parle beaucoup, les pauvres, les passoires thermiques, ils se disent déjà qu'ils vont devoir vendre leur immobilier parce que ça va valoir plus rien. Est-ce qu'on peut leur donner un petit espoir qu'ils peuvent optimiser la gestion de leur immeuble?
Complètement. En fait, vous parlez de ces passoires thermiques. À un moment, la vendre, ça transforme pour l'entreprise qui la vend, mais ça transforme pas le problème dans son ensemble. Il y a bien un moment, il va falloir le rénover. Rénover ou agir sur ce bâtiment. Et en fait, tout le parc existant, on va pas dire qu'on va s'installer dessus, non pas. Donc, on travaille essentiellement aujourd'hui sur le bâtiment tertiaire. Voilà, il y a quand même des choses qui arrivent avec ce fameux décret tertiaire dont tout le monde a entendu parler, qui est un vrai driver pour essayer justement de rénover ces bâtiments. Et nous, on va pouvoir s'installer dans les bâtiments dès qu'il y a une action de rénovation, dès qu'il y a une action particulière. Donc vous changez, il y a une mutation dans le bâtiment, on refait des travaux, il y a un nouveau preneur, on refait des travaux, il y a un changement de property manager, on refait des travaux, etc. Donc dès qu'il y a une action, on peut s'installer. Autrement dit, effectivement, il y a le neuf qui drive l'ensemble du marché, parce que quand je rénove un bâtiment, c'est pour le faire ressembler au bâtiment neuf, ou au moins le mettre à niveau d'un bâtiment neuf. Donc il y a le neuf qui drive le marché, mais l'objectif, c'est tout le marché. C'est pas uniquement le bâtiment neuf.
On en sait donc un petit peu plus sur Spinalcom qui a pivoté. Alors bien sûr, pour pivoter, vous nous l'avez dit, il faut des équipes. Et justement, on va écouter un de vos collaborateurs, c'est Sébastien Coulon au micro de Fabienne Lissac.
Sébastien Coulon, bonjour. Vous êtes associé, le directeur général fondateur de Spinalcom avec Jérémy Bellegue. Alors, c'est pas rien de s'associer à quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Jérémy Bellegue ?
Jérémy est une personne très passionnée par son sujet, donc qui est autour des jumeaux numériques et de l'application de ce sujet au monde du smart building.
Vous me disiez, ça fait longtemps qu'il s'intéresse à ces sujets, hein, ça remonte à quand ?
Ça remonte à sa thèse sur laquelle il a travaillé donc autour des sujets du jumeau numérique.
Alors, il y a des ingénieurs, hein, ils sont très très focalisés sur la technique et on comprend pas tout. Comment il est ? Vous le voyez comment ?
Alors effectivement, hein, c'est une personne qui est très technophile, mais c'est également une personne qui est capable de transformer un message qui est extrêmement technique en un message qui peut être compris par le plus grand nombre. Et c'est une personne qui s'intéresse à beaucoup de sujets divers et variés.
Ouais, si on reste sur ce sujet des jumeaux numériques dont vous parlez, c'est juste voilà un sujet qui lui a plu, qui l'a enthousiasmé, ou c'est plus fort que ça quand il en parle d'après vous?
Globalement, il a une vision. Il a une vision très claire sur ce sujet et comment ça va transformer les différentes industries et la société Spinalcom s'est spécialisée sur le jumeau numérique dans le monde du bâtiment et donc spécifiquement dans le monde du smart building.
Alors, est-ce qu'il est passionné d'autres choses encore ? On peut parler d'autres sujets avec Jérémy Bellegue ?
Oui, énormément. C'est un passionné de voile. Et puis, globalement, il a une très bonne vision de la politique française.
Donc, si je vous comprends, il n'a pas l'air de ressembler à ces scientifiques dans leur tour d'ivoire. Il a l'air d'être intéressé dans l'ouverture, la connexion avec les autres. C'est comme ça que vous le percevez ?
Ah, globalement, oui, tout à fait.
Merci pour cet éclairage sur notre invité, Jérémy Bellegue. Merci, monsieur Coulon, d'avoir été avec nous. Au revoir.
Alors j'entends, Jérémy Bellegue, vous vous intéressez à la politique. On est quand même dans une période extrêmement sensible, à 3 jours des élections. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais quelle est votre lecture de ce contexte un petit peu particulier, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron? Ça vous inspire quoi tout ça?
Je ne sais pas si c'est pas les sujets justement dont en général je parle en public, mais
c'est pour ça que ça nous intéresse.
C'est pour ça que ça vous intéresse. Alors non, ça m'inspire une inquiétude parce que j'ai la chance de venir d'une famille qui est très comment dire, qui vient d'un peu partout, avec un père qui est issu de Bretagne, une mère qui est juive marocaine, voilà, dans lequel il y a énormément de partage d'un peu partout. Donc, vous l'aurez compris, j'ai plutôt un avis sur le sujet. Voilà, il y a des choses que j'aime, d'autres sur lesquelles c'est impensable de mon côté. Après, je trouve qu'il y a finalement soit une méconnaissance, soit une attente qui est tellement énorme vis-à-vis de la politique, où on pense que c'est responsable d'absolument tout, alors qu'au fait, c'est pas un président qui verse mon salaire, qui fait en sorte que j'ai envie d'aller au travail, qui fait en sorte que j'arrive à éduquer mes enfants. Alors, il y a énormément de choses. En plus, on vit dans un pays quand même qui est assez exceptionnel. Même là, je viens d'avoir l'école gratuite, la santé quasiment gratuite. Enfin, il y a des choses qui sont absolument exceptionnelles.
Et on l'oublie complètement. C'est ça.
On l'oublie complètement. Et surtout, on ne sait pas comment nos institutions fonctionnent. Voilà, donc on a l'impression que parce que en gros que le président peut dire au maire comment il faut qu'il fonctionne et puis voilà, alors que c'est pas du tout comme ça. Heureusement, on a la chance de vivre dans un pays dans lequel il y a énormément de liberté. Enfin, il y a un cadre juridique, mais au-delà de ça, il y a quand même énormément de libertés qui sont données à chacun. Il y a plein de choses à faire évoluer. Mais vous l'aurez compris, moi, je suis plus dans une démarche d'évolution. Je préfère structurer, faire évoluer, et puis sur une vision long terme, et pas changer tout d'un coup.
Vous trouvez que les Français sont un petit peu râleurs, hein, pas quand je vous entends dire, on oublie qu'on a la chance d'être voilà, dans une démocratie, d'avoir la sécurité sociale, vous ne l'avez pas dit, mais enfin bref, il y a pas mal d'atouts pour lesquels la France est enviée, et donc je retrouve votre ami qui disait, il voit les choses, Jérémy Bellec, pas après pas, donc cet esprit positif peut-être qui vous caractérise, il est passé partagé par nos compatriotes.
Oui, mais c'est pas grave. En fait, à la limite, c'est pas dérangeant. Au contraire, c'est même super de pouvoir discuter avec eux. Moi, j'adore discuter avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Voilà, et je trouve ça super enrichissant. Donc, j'irai pas râleur parce que je pense que parce qu'ils ont râlé, on a aussi tout ça. Donc, non, c'est. Je trouverais à la limite pas ça normal qu'il n'y ait pas de manifestation ou choses comme ça. J'ai pas été éduqué dans un monde dans lequel on n'a pas le droit de manifester. Donc non, je trouve ça super et je trouve que c'est très enrichissant et justement, j'aimerais qu'on ne perde pas cette liberté de pouvoir râler, quoi.
Voilà, après cette insight politique, et voilà, on va faire une petite pause musicale, tiens, pour reprendre notre respiration. On se retrouve juste après avec notre invité Jérémy Bellec. À tout de suite.
Undermine every little lie in this world come from divine. Say you my love, say you're my home. Fill my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Speak up, light's blind in no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining. My darkness is shining.
Le choix de notre invité Alex Ebert, Truth, qu'on vient d'écouter. Un petit mot, Jérémy, sur ce choix.
En fait, c'est la tranquillité de la chanson. Moi, j'ai l'impression d'être, je ne sais pas, en vacances, sur une plage, quand j'écoute cette chanson. Et puis, je l'écoute assez régulièrement. Il faut dire pourquoi, parce qu'elle me calme, parce que voilà, je la trouve très apaisante.
Ben c'est voilà. Vrai. Une belle découverte, effectivement. Vous avez des goûts éclectiques musicaux ou vous êtes sur du bucolique, calme, contemplatif en musique?
Non, je crois que vous avez passé Aurel San avant, j'aime bien. Là, en plus, mes filles me font découvrir des tonnes de choses.
Elles ont quel âge, vos filles, alors?
Elles ont 15 ans, 9 ans, et, enfin 15 ans, 11 ans et 8 ans.
Très bien.
Voilà,
environnée de filles, alors.
Environnée de filles et de ma femme.
Et dans votre société, hein, parce que dans le numérique, hein, on dit oui, c'est un métier pour les femmes, et puis on ne les voit pas beaucoup. Alors, vous avez ça en tête comme patron?
On en a ça en tête, mais effectivement, quand on embauche des développeurs, par exemple, c'est assez compliqué. Simplement parce que sur 20 personnes, si on arrive à avoir une femme qui se présente sur le poste, c'est pas évident. Donc, on y pense parce que voilà. Après, on essaie d'y travailler. On essaie d'y travailler et c'est pas toujours simple quand on est sur ce métier-là en particulier d'éditeur de logiciels assez technique sur lequel les profils qui se présentent en général sont des profils plutôt masculins.
C'est un souci quand on gère une société comme vous, on se dit mince, faut absolument de la mixité en termes d'ambiance, de philosophie, de groupe, ça fait une grosse différence?
Alors, je sais pas si c'est encore un souci à ma taille, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on est près de 25, on était 7 il y a 3 ans. On évolue vraiment comme ça, donc je dirais qu'au début c'était pas réellement un souci parce que j'étais tellement focalisé sur l'objectif, etc., que finalement on a une équipe qui marche bien,
c'est
qui avance
jeunes,
bien.
Ouais,
on commence à avoir toutes les classes d'âge, donc c'est assez intéressant, mais effectivement des jeunes qui sont super motivés, qui sont super autonomes. Alors je sais pas si c'est le fait de télétravail, le Covid, etc., mais ils sont d'une autonomie, je trouve, assez incroyable, c'est de plus en plus intéressant. Maintenant qu'on commence à être un peu plus nombreux, qu'on arrive à un stade où finalement, moi, je me retrouve ici, je me retrouve ailleurs, je suis plus moi en direct et je connais un peu moins. Enfin, j'ai toutes mes équipes, je les connais encore toutes, mais on sent bien que j'arrive à un stade d'entreprise sur lequel il y a une évolution qui se fait parce que je connais moins bien les jeunes qui arrivent, forcément. Voilà. Et donc là, on se pose aussi les questions de comment je la structure, comment je l'entretiens, comment l'ambiance d'équipe peut vraiment.
Une question justement tient sur le télétravail qu'on a évoqué, hein, qui révolutionne également le bâtiment et ses flux que vous analysez au jour le jour. Pour vous, comment ça s'est passé justement cette crise sanitaire? Parce que dans un monde un peu tech, on est peut-être moins impacté.
Je sais pas si c'est la tech qui est moins impactée. Au début, c'était pas facile. Au début, vraiment, on s'est dit, bon, mince, globalement, tous nos clients vont s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Ils quittent tous leur bâtiment. En plus, tout s'arrête. Donc, on a eu une période de stress. Voilà. Heureusement, enfin, voilà, vous l'avez peut-être compris, mais je suis pas dans le court terme. Donc, je pense qu'on prévoyait ou on avait déjà un petit peu de prévision. On savait qu'on avait facilement l'année, une année et demie devant nous. Ce qui, pour une start-up, entre guillemets, ou une petite entreprise, est pas toujours évident, mais on a bien géré de ce point de vue-là.
Vous savez que vous pouviez tenir, entre guillemets.
Ouais. Ouais, voilà. On savait qu'on pouvait tenir, on savait qu'on avait... Et puis on a des clients aussi de long terme, nous, quand on...
Nos solutions... Vous pouvez nous les citer un petit peu
Ouais, par exemple, là, on a fait... C'est une grande fierté, on vient de livrer le siège social de Vinci. Donc on est le BOSS, le Building Operating System du siège social de Vinci. Là, on travaille avec...
Il est où? Vous pouvez nous en parler un petit peu
ouais. Il est à Nanterre, juste derrière la Défense. C'est un campus, puisqu'il y a 70 000 m² sur 4 ou 5 bâtiments, dont une tour de 22 000 m². Cette tour de 22 000 m², c'est elle qui produit 6 millions de données par jour, par exemple, et c'est pas anodin. Enfin, voilà, donc maintenant, il y a toute la réflexion autour de... C'est bien, on a mis cet outil-là, maintenant, comment on l'utilise au mieux? Je pense qu'aujourd'hui, on l'utilise comme c'était vraiment un projet d'innovation à l'époque. C'était il y a 4 ans quand même que ce choix a été fait d'installer ce système, et on l'a livré début d'année, là, fin d'année dernière, début d'année, ces livraisons. Donc en fait, vous voyez qu'on est sur des sujets qui sont assez long terme et sur lesquels on avance à la vitesse du bâtiment, mais d'un autre côté, on peut prévoir aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et pour revenir au Covid, finalement, ça a été plutôt bénéfique, puisqu'on a triplé la taille de l'entreprise sans faire de levée de fonds, vraiment en travaillant sur ce qu'on fournissait, sur ce que nos clients nous payent concrètement, et sur la valeur qu'on peut leur fournir. Donc, je dirais que ça nous a été, après coup, plutôt bénéfique, parce que ça a tellement transformé la manière dont les gens utilisent leurs espaces de travail, que ça a aussi transformé la manière dont nos clients, qui sont les investisseurs, les propriétaires, les asset managers, les foncières, envisagent de gérer leurs assets. Et forcément, quand on parle de mieux gérer les assets, tout de suite la partie digitalisation, information, recueil d'informations se pose. Et donc c'est un sujet, c'est pas anodin. Je pense que la Smart Building Alliance est aussi travailler sur ce sujet-là, qu'on sorte le livre blanc sur le BIS et le BOSS.
J'allais en parler, vous dire un petit mot de cette conclusion. Hein. Elle recommande ce groupe de travail au sein de la SBA. SBA dit que le BOSS doit être un marqueur dans la longue histoire de la construction. Et puis un petit rappel de ce que vous appelez le BOSS, hein, l'outil logiciel qui fait le lien entre les différentes applications du bâtiment. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît?
Alors, le BIS et le BOSS, donc les acronymes, BIS, Building Information System, système d'information du bâtiment, BOSS, Building Operating System, donc système d'exploitation du bâtiment. L'image, pour représenter ça, c'est vous êtes passé du téléphone au smartphone, et qu'est-ce qui fait que votre téléphone est un smartphone aujourd'hui? Bien sûr, il y a plus d'équipements dedans, mais vous avez un outil qui s'appelle un OS dedans. Vous avez iOS, vous avez Android, voilà. Et c'est tellement important que quand on vous demande quel téléphone vous avez, on dit vous avez un téléphone Android ou iOS. Et en fait, l'intelligence, le smart, le côté smart, est associé à l'OS que vous avez dedans. Pourquoi ? Parce que l'OS, c'est ce qui va récupérer toutes les données, tous les équipements, les structurer, les rendre compréhensibles, et ce qui va permettre de développer des tonnes d'applications qui ensuite vont vous servir. Donc l'OS, vous n'avez pas directement, si vous avez un téléphone où il n'y a que iOS dessus, pas d'application, ça ne sert à rien. Par contre, grâce à iOS, vous avez des tonnes d'applications, vous pouvez envisager des tonnes d'applications, vous pouvez évoluer, vous pouvez faire adapter votre téléphone. Bien, le passage du bâtiment au smart building ou au bâtiment digital, on a le même principe. Le bâtiment intelligent de demain, c'est un bâtiment qui va vous offrir plein de services digitaux. Mais ces services digitaux, ils permettent de mieux gérer l'énergie, de mieux gérer la maintenance, de mieux gérer les espaces, de mieux vous géoguider, de mieux interagir avec votre bâtiment, etc. Donc c'est des vrais services physiques aussi. Mais pour gérer tous ces services digitaux, il va bien falloir mettre ce qu'on appelle cette fondation digitale, cette OS. Voilà. Sans OS, vous n'avez pas ce côté intelligent. Donc sans BOSS, le Building Operating System, vous n'avez pas de Smart Building. Et ça, c'était vraiment la vision qu'on portait en 2015, quand on a mis ce concept-là sur le marché, de BOSS. Et je pense que progressivement, elle a pris, mais simplement parce qu'elle est plutôt logique, en fait. Elle est plutôt logique. Donc voilà, le BOSS, c'est le Windows, si vous préférez, du bâtiment qui va permettre demain de faire en sorte que vous ayez des tonnes de services digitaux dans le bâtiment.
Ou l'iOS.
Alors le BOS, c'est bien, mais le BOSS, là, c'est Fabrice. Il va nous dire qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines minutes.
On continue à parler justement du Smart Building Alliance avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Frédéric Guillonnet.
Oui.
Et justement, on l'écoute au micro de Fabienne Isaac.
Frédéric Guillonnet, bonjour. Vous êtes à la direction prescription du groupe Distech et vous travaillez régulièrement avec Jérémy Bellec. À quelle fréquence ?
Oh, la fréquence, elle est hebdomadaire, voire plusieurs fois par semaine. Oui.
Et quels sont vos rapports, justement ? Quel type de relation avez-vous ?
Extrêmement constructive. Jérémy est quelqu'un de très pragmatique, très professionnel dans son approche. Il dispense d'ailleurs ses compétences, y compris à ses confrères, qui s'en enrichissent très largement. C'est vraiment quelqu'un pour nous de valeur.
Vous avez beaucoup de partenaires, effectivement. Il ressort dans le lot ?
Oui, particulièrement. C'est vraiment un des experts. Enfin, on a tous besoin de s'enrichir des expertises des autres. Nous-mêmes, nous avons une expertise dans certains domaines et on a besoin de s'enrichir de l'expertise des autres. Et Jérémy est sans contexte un partenaire important, un expert important. De digital partner, oui.
Alors parfois il y a des sachants, hein, ils aiment bien avoir un ton professoral. Et c'est son style, Jérémy Bellec ?
Professoral, non. Et il est plutôt très humble, comme l'ensemble de la structure Spinalcom. Ce qui met d'ailleurs en avant en évidence la compétence de la structure, et plus particulièrement de Jérémy. C'est vraiment quelqu'un de passionné, vraiment à l'écoute, qui prend le temps d'expliquer, de répéter, d'adapter son discours. C'est vraiment, vraiment un grand professionnel.
Quand on a des méthodes comme ça à tout faire, on est idéologique ou comment il aborde les sujets ?
De manière très posée. Et il trouve les éléments d'explication. C'est pas évident à traduire. On est dans un milieu très technique. Donc il sait adapter son discours. Il sait trouver des éléments de langage qui permettent à tout à chacun de comprendre les enjeux. Si on peut en dire ça comme ça, Jérémy, c'est vraiment... quelqu'un de très très pro, sans aucun souci.
Merci Frédéric Guillonnet pour cet entretien.
Voilà Frédéric Guillonnet au micro de Fabienne Lissac, hein. Nouvelle fois, très, très élogieux.
Écoutez, vous avez choisi des très bonnes personnes. Non, c'était... Merci beaucoup.
Il nous reste quelques minutes, Jérémy Bellec. L'avenir justement de Spinalcom, comment vous voyez ce bâtiment-là dans les 10 prochaines années ? On a l'impression, bon, plus de numérisation, digitalisation. Tiens, d'ailleurs, vous parliez d'OS tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un OS justement qui prend le dessus, un peu comme Android et iOS ? Ou est-ce qu'il y en a une multitude qui existe ? Est-ce qu'on peut créer comme ça
Alors si je parle du marché des OS, je pense qu'à terme il n'y en aura pas 50, parce que on est sur un métier d'écosystème, c'est-à-dire que nous on est vraiment notre but c'est pas juste de mettre un OS pour un OS, c'est de mettre un OS pour pouvoir collaborer à plein d'autres entreprises qui vont se coupler avec cet OS et faire en sorte d'enrichir cet écosystème digital pour le bâtiment. Donc je pense qu'il n'y en aura pas 50. Après, est-ce qu'il y en a un qui prend le dessus ? J'ai envie de vous dire, moi j'espère qu'on va vraiment continuer. Nous, on va vraiment continuer cette démarche-là. Et je pense vraiment qu'on a un positionnement particulier parce qu'on était vraiment pionniers sur ce sujet-là et qu'on essaie vraiment de bien faire notre travail aussi. Je pense qu'on va vraiment évoluer là-dessus. Ensuite, comment je vois l'avenir ? On ne fait pas du digital pour du digital. En fait, ça a été une critique aussi qu'on nous a fait souvent. Non. Alors nous, on parle de métiers très techniques parce qu'on est obligé de rentrer dedans pour bien gérer les données. Mais la raison pour laquelle on le fait, c'est pas juste pour faire du digital. La raison pour laquelle on le fait, c'est pour mieux gérer le bâtiment. C'est pour mieux gérer l'énergie. C'est pour mieux gérer la maintenance. C'est pour offrir plus de confort, de qualité de service aux usagers. Ça va forcément évoluer. Enfin, je vois pas comment ça pourrait s'arrêter, sachant que on en est qu'au début, que tous ces outils commencent à arriver, qu'ils proposent déjà des choses qu'on savait pas faire hier, et que vraiment, en plus, les enjeux qu'on vit aujourd'hui de développement durable, sont tellement énormes que. Je prends juste un exemple. Vous prenez le décret tertiaire. L'objectif, c'est pas seulement de monitorer sa consommation énergétique. C'est bien de réduire de 5% par an sa consommation énergétique. Monitorer, prendre les factures et puis récupérer le montant de la facture pour le mettre tous les jours dans mon dashboard ou bien récupérer une donnée d'un capteur de consommation énergétique et puis le mettre tous les jours, ça, c'est facile. Globalement, on sait le faire et beaucoup de personnes savent le faire. Baisser sa consommation énergétique de 5%, ça nécessite d'aller dans le détail, de comprendre qu'est-ce qui consomme, pourquoi ça consomme. Et ça nécessite une compréhension beaucoup plus large, etc. Et là, on a besoin d'outils pour le faire.
D'accord. Et c'est là où vous intervenez, vous allez devenir prescripteur, peut-être consultant, pour demain faire, par exemple, des économies ou mieux monitorer ce bâtiment. Une fois qu'on comprend finalement, qu'on a ausculté le bâtiment, on peut faire ça.
On est avant tout éditeur de logiciels, c'est-à-dire qu'on fournit la solution. Ouais. Après, avec notre métier, il faut comprendre pourquoi, il faut faire comprendre à notre écosystème pourquoi il faut ce type de solution. Donc tout le travail au sein de la SBA, tout le travail sur ce livre blanc, le BOSS, c'est pas simplement dire venez m'acheter mon produit. C'est dire il y a un vrai enjeu, il y a vraiment quelque chose. On se met avec nos partenaires, on se met avec nos concurrents. On l'a pas fait tout seul, hein, ce livre blanc. Il y avait un écosystème, il y avait aussi nos concurrents dedans, et on travaille pour faire en sorte de faire comprendre pourquoi ça c'est important. Et voilà, on sait qu'il y a du travail, mais globalement, c'est plutôt motivant parce qu'on sait aussi qu'on répond à des vrais enjeux.
Mais il a raison, Fabrice, parce qu'effectivement, le témoignage qu'on vient d'entendre, son titre, c'est directeur de la prescription.
Oui.
Et qui a la main, hein, parce qu'il y a les 10 recommandations de la SBA, hein, ces recommandations Smart et Green qui sont dans, édictées dans ce livre blanc. Est-ce que vous adressez simplement aux dirigeants? Vous disiez que vous livrez un bâtiment à Vinci, donc des dirigeants de grands groupes. Est-ce que les collectivités locales qui mettent en œuvre cette transition écologique, que le gouvernement essaye d'insuffler aussi, voilà, qui sont les interlocuteurs pour faire en sorte que cette transition numérique se passe bien dans le bâtiment?
Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'interlocuteurs. Ça va des prescripteurs, ça peut aller des bureaux d'études, il y a des nouveaux prescripteurs qui vont être ces acteurs du digital qui arrivent aussi dans le bâtiment. Voilà. Il y a évidemment les clients, il y a les foncières d'un côté qui sont les foncières, les investisseurs, les asset managers qui détiennent les bâtiments, qui ont des contraintes ESG, ISR, etc. et qui doivent mettre en œuvre des choses pour modifier la manière dont ils gèrent leurs bâtiments. Et puis il y a les autres clients, les occupants, les preneurs, les directions de l'environnement de travail, directions immobilières, qui aussi vivent tous les jours dans le bâtiment et qui sont très sensibles et dont les salariés sont très sensibles aussi à ces sujets-là ou de plus en plus sensibles à ces sujets-là. Donc au fait, ça s'adresse. Alors ce livre blanc-là, il est plutôt technique. On va dire, il pose les bases d'une bonne définition pour rendre le sujet, entre guillemets, donner des critères très concrets pour rendre le sujet, pour poser le sujet. Donc il s'adresse, on va dire, plutôt aux prescripteurs et aux futurs clients. Voilà.
Et si on rendait réellement le bâtiment intelligent, le livre brun téléchargé, c'est gratuit hein, sur votre site spinalcom.com. Tout savoir sur le BIS, sur le BOSS, sur les systèmes d'information, sur la gestion des données. En tout cas, nous, on a beaucoup appris durant cette heure. Merci, Jérémy Bellec.
Je suis content parce qu'on se sent plus intelligent après vous avoir entendu sur le bâtiment intelligent, Jérémy Bellec. Merci de votre visite.
Merci beaucoup, en tout cas, vous
m'avoir invité. En musique, on vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain Mac de Limo.
Au revoir.
Au revoir.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.